VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Ouagadougou, 13h à Libreville, bienvenue à notre journal. Gabon, le calme est revenu aujourd'hui à Libreville, la capitale, où une tentative de coup d'état militaire a échoué hier. La circulation a repris sur le boulevard Triomphal, siège de la RTG, la radio-télévision nationale, où l'appel au soulèvement lancé par quelques militaires a eu lieu lundi à l'aube. Les précisions d'Idrissa Sédoudia.
La plupart des commerces et lieux de restauration fermés depuis lundi matin avaient de même rouvert ce mardi. Un fort déploiement des forces de sécurité est visible dans la capitale depuis lundi. Dans la nuit de lundi à mardi, des blindés de l'armée gabonaise ont patrouillé en ville. Lundi matin, une dizaine de militaires de la garde républicaine avaient tenté un coup de force en appelant sur la radio d'État au soulèvement pour, je cite, « sauver le pays du chaos ». Le chef du commando a été arrêté, deux de ses hommes abattus par les forces de sécurité, tandis qu'Internet était coupé dans le pays. Cette tentative de putsch, condamnée unanimement par l'ONU, l'Union africaine et la France, est quasi inédite au Gabon. Petit pays d'1,8 million habitants réputé stable. Elle s'est déroulée en l'absence du président Ali Bongo Ondimba qui se trouve hors du pays depuis 2 mois et demi et poursuit actuellement sa convalescence au Maroc. Sa date de retour au Gabon est inconnue.
Violence en République démocratique du Congo, au moins 8 civils, dont des membres de famille et de militaires, ont été tués dans la nuit de lundi à mardi lors d'une incursion d'hommes armés à Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. C'est ce qu'annonce l'armée nationale. La police qui a avancé le même bilan a ensuite revu à la hausse son décompte qui est passé maintenant à 10 morts. Un responsable de la société civile locale et un observateur parlent même d'un bilan de 11 civils tués. La ville et les territoires de Beni sont depuis octobre 2014 la cible d'attaques généralement attribuées au groupe armé d'origine ougandaise des ADF, les forces démocratiques alliées. RDC toujours, le Conseil de sécurité de l'ONU a repoussé une réunion sur l'élection présidentielle dans le pays, et ce à la demande de l'Afrique du Sud. Les détails avec Irénée Herman Ongbo.
La réunion publique prévue initialement ce mardi aura lieu vendredi prochain. Les 15 réunis à huis clos vendredi dernier n'avaient pas réussi à s'entendre sur un communiqué de presse avant la publication des résultats en RDC. L'Afrique du Sud, aux côtés de la Russie et de la Chine, a pesé pour retarder toute initiative jusqu'à ce que les résultats soient annoncés. Dimanche, la CENI en RDC a renvoyé la publication des résultats provisoires, affirmant que seuls 53% des procès-verbaux ont été traités depuis le scrutin du 30 décembre. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que les Nations Unies ont hâte de voir la publication dans les meilleurs délais des résultats provisoires. Avant la réunion du Conseil vendredi, l'ambassadeur sud-africain à l'ONU, Jerry Matila, avait confié à des journalistes que le monde devait être très, très patient pendant le décompte des voix. La France avait souhaité une déclaration au nom du Conseil pour exhorter Kinshasa à respecter l'issue du scrutin.
Élection à Madagascar, la haute cour constitutionnelle malgache doit prononcer aujourd'hui les résultats officiels de la présidentielle du mois dernier. La victoire dans ce scrutin a été attribuée à l'ex-président Ange Raduel, malgré les accusations de fraude formulées par son rival Marc Ravalomanana, lui aussi un ancien chef d'État. Depuis une semaine, plusieurs centaines de partisans de Marc Ravalomanana ont défié l'interdiction des autorités pour manifester à 5 reprises sur l'emblématique place du 13 mai, au cœur de la capitale Tananarive, pour exiger ce qu'ils appellent la vérité des urnes. Ces rassemblements ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par la police qui a procédé à un certain nombre d'arrestations.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, le président nigérien Muhammadu Buhari a reconnu lundi soir que l'armée essuyait des revers dans sa lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram qui a lancé de nouvelles attaques dans le nord-est du pays. Alors que le chef de l'État s'apprête à briguer un deuxième mandat en février, cette vague d'attaques, notamment contre des bases militaires, est venue contredire ces allégations répétées selon lesquelles Boko Haram est pratiquement vaincu. Burkina Faso, la semaine dernière, le pays a vécu une terrible tragédie. Des violences intercommunautaires ont fait 47 morts dans la région du centre-nord du pays, essentiellement des membres de l'ethnie Peul. Le président Rochemar Christian Kabore s'est rendu sur les lieux pour tenter une réconciliation entre les chasseurs traditionnels et les Peuls. Comment expliquer le drame qui s'est produit? Éric Maniraquiza a joint hier soir à Ouagadougou un défenseur des droits de l'homme burkinabé, Ismaïl Diallo.
Nous aimons, nous, Burkinabés, nous flatter que nous n'avons pas de problème ethnique et que nous vivons en parfaite harmonie entre communautés. Ces crimes viennent nous rappeler que nous n'avons pas su, depuis l'avènement de l'indépendance, construire une nation, mais que nous avons vécu entre ethnies, entre communautés juxtaposées. Il faudrait chercher à comprendre pourquoi il y a ce désamour entre certaines communautés et pourquoi pouvons-nous aller jusqu'à des assassinats. La question est très complexe. Mais il faudrait d'abord que nous acceptions que nous avons ce problème avant de pouvoir l'examiner et le résoudre si nous en avons la volonté et la capacité.
On ne pouvait pas penser qu'une telle tragédie pouvait arriver au pays des hommes intègres.
Personne ne pense que nous avons ces différents ethniques. Ça a toujours été quelque chose de latent. Je ne dirais même pas que ça date de longtemps, hein. Ça date peut-être de quelques décennies. Moi, quand je grandissais au Burkina, je ne connaissais pas d'antinomie et de haine sourde entre ethnie A et ethnie B, ce que beaucoup de Burkinabés refusent de reconnaître.
Et où sont les hommes intègres?
Oui, au pays des hommes intègres, comme vous dites, quoique nous ayons perdu beaucoup de notre intégrité depuis quelques années.
Le président de la République s'est rendu sur les lieux. Est-ce que vous sentez une présence de l'État dans cette localité frappée par cette tragédie?
J'entends des commentaires qui ne sont pas élogieux sur ce passage-là et sur les propos qu'il a tenus, parce que à son arrivée, il a été reçu par une milice armée qui n'est pas une institution, une branche, une structure de l'appareil étatique. Et en plus, il a eu l'air de privilégier dans ses propos l'entente, la réconciliation plutôt que la justice. Et nous ne pouvons pas, en tout cas beaucoup de Burkinabés ne s'illusionnent pas, de penser que nous pouvons aller à une réconciliation quelconque si nous ne passons pas par la justice. Il faudrait donc passer par cette justice.
Donc ça ne résout pas le problème de fond?
Ça ne résout pas le problème. C'est à nous tous de nous emparer de ce problème et d'être francs entre nous, de pouvoir mettre le doigt là où ça fait mal et discuter ouvertement sur ces différents ou ces différences que nous avons. Si nous tenons à perpétuer ce que nous aimons appeler le vivre ensemble, il y a des déchirures qu'il faudrait colmater, qu'il faudra réparer.
Comment justement régler ce problème ethnique dont vous parlez?
En dehors des rixes, de querelles sur le foncier, nous avons su préserver la quiétude sociale. Mais nous sommes, je crois, arrivés à une limite où nous devons, toute honte due, regarder les choses en face et accepter que nous ne sommes pas une exception sur les questions ethniques et que nous devons nous regarder en face et traiter nos problèmes.
On voit le même problème au Mali, aussi au Nigeria. Est-ce qu'on peut parler d'un crime spontané? Comment le qualifier?
Moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un complot généralisé contre l'école. Mais il est intéressant, et je crois qu'il serait bon de poser le problème très clairement. Qu'on soit seul ou pas seul, il faudrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a un problème seul dans beaucoup de pays ouest-africains et centrafricains. Pourquoi? Est-ce que cette ethnie est différente des autres? Est-ce que cette ethnie ne sait pas vivre avec les autres? Ou est-ce que c'est une manipulation qui ne date que de 2 ou 3 décennies?
Ismaïl Diallo, défenseur des droits de l'homme au Burkina Faso. On termine avec l'actualité aux États-Unis. Le président américain Donald Trump doit s'adresser à la nation ce soir à propos de la situation à la frontière avec le Mexique. Les négociations pour mettre fin au shutdown, la fermeture partielle des administrations fédérales sont toujours bloquées. John Lindon.
Je suis ravi de vous informer que je vais m'adresser à la nation sur la crise humanitaire et de sécurité nationale à notre frontière sud. Mardi soir à 21h, 2h GMT, a tweeté le président américain. Quelques heures plus tôt, la porte-parole de l'exécutif, Sarah Sanders, avait annoncé que le président Trump se rendra jeudi à la frontière avec le Mexique pour rencontrer ceux qui sont en première ligne de la crise humanitaire et de sécurité nationale. Le shutdown, paralysie partielle des administrations fédérales, est entré dans sa 3e semaine. Le président répète à volonté qu'il veut plus de 5 milliards de dollars pour édifier un mur à la frontière sud afin de lutter contre l'immigration clandestine. Il a affirmé dimanche être prêt à ce que ce mur soit fait d'acier et non de béton si cela permettait de débloquer les négociations.
Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.